Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 15 mai 2024. La justice suisse a condamné aujourd'hui Ousmane Sonko, un ancien ministre de l'Intérieur de la Gambie, pour crimes contre l'humanité. Au Burkina Faso, la suite de la transition sera décidée par des assises nationales prévues les 25 et 26 mai prochains selon les autorités militaires. Au Rwanda, l'opposant Bernard Ntaganda, privé de ses droits civiques, ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken annonce 2 milliards de dollars en aide pour la défense de l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Du nouveau dans la crise entre le Niger et le Bénin, Cotonou a décidé de lever le blocage de l'exportation du pétrole nigérien, mais seulement à titre provisoire, après une séance de travail entre le gouvernement béninois et une délégation chinoise en mission au Bénin. La mesure de blocage sera rétablie si le Niger ne prend pas des mesures de son côté, a fait savoir le Bénin. La délégation chinoise doit se rendre au Niger. 20 ans de prison pour l'ancien ministre de l'Intérieur gambien, Ousmane Sonko. Il a été condamné en Suisse pour divers crimes contre l'humanité sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Davantage avec Alexandrine Ollognon.
La Cour a déclaré Ousmane Sonko coupable d'homicide volontaire répété, d'actes de torture répétés et de privation de liberté répétée, infraction réprimée au titre de crimes contre l'humanité. Outre la peine privative de liberté de 20 ans, la Cour a aussi prononcé son expulsion du territoire suisse pour 12 ans et le contraint à s'acquitter d'une réparation envers les parties civiles. Il peut faire appel devant ce même tribunal. Selon la défense, les conditions du crime contre l'humanité n'étaient pas remplies. Elle estime que les faits retenus par le parquet étaient des actes isolés dans lesquels l'ex-ministre de l'Intérieur ne porte aucune responsabilité, pointant du doigt l'Agence nationale de renseignement et les Junglers, un groupe paramilitaire. Cette affaire historique envoie un message d'avenir dans la lutte contre l'impunité, a réagi sur le réseau social X, Philip Grant, le directeur de l'ONG Trial International, à l'origine de la procédure. Ousmane Sonko avait été arrêté le 26 janvier 2017 en Suisse, où il avait demandé l'asile après avoir été démis de ses fonctions ministérielles, qu'il a occupées pendant 10 ans jusqu'en septembre 2016.
La répression des manifestations en Guinée a fait au moins 47 morts, en grande majorité des jeunes, depuis la prise du pouvoir par les militaires en septembre 2021, affirme Amnesty International dans un rapport publié aujourd'hui. La junte a aussi interdit toute manifestation depuis 2022 et fait arrêter, traduit en justice ou poussé à l'exil un certain nombre de dirigeants de l'opposition. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé mardi la tenue d'assises nationales les 25 et 26 mai pour décider de la suite de la transition qui s'achève le 1er juillet. Le point avec Rosine Munezero.
Les dites assises permettront aux représentants des forces vives de la nation de délibérer sur la suite à donner à la transition dont la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu'au 1er juillet 2024, a indiqué dans un communiqué le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo. En octobre 2022, juste après le coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré, une charte avait été adoptée lors des premières assises nationales. Elle fixait la durée de la transition à 21 mois. Les assises de mai réuniront des représentants de la société civile, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité FDS qui vont faire un bilan des mois écoulés et décider quelle suite donner à la transition. Après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même renversé le président élu Roch Marc Christian Kabore, le capitaine Traoré disait vouloir remettre le pouvoir aux civils en organisant des élections à l'été 2024. Le régime a ensuite fait savoir que la sécurité dans le pays primait sur l'organisation d'élections.
Rwanda, les deux derniers fugitifs recherchés par la justice internationale pour leur rôle présumé dans le génocide des Tutsis en 1994, Charles Sikou Boabo et Rianti Kayo sont décédés, a annoncé aujourd'hui le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Si plus aucun suspect recherché par le MTPI n'est vivant ou en liberté, il reste encore plus de 1000 génocidaires fugitifs recherchés par les autorités nationales, souligne le procureur du MTPI, Serge Brametz, dans un communiqué. Un tribunal rwandais a rejeté hier l'appel d'une figure de l'opposition qui réclamait l'annulation de ses condamnations antérieures, ce qui le disqualifie de la présidentielle de juillet. Délidico.
Bernard Ntaganda, 55 ans, farouche opposant au président Paul Kagame qui dirige le Rwanda depuis l'an 2000, a demandé en février à la haute cour de Kigali d'annuler des condamnations remontant à plus d'une décennie. Trois juges ont rejeté le recours, soulignant que le responsable politique n'a pas payé des frais de justice d'environ 80 dollars en lien avec une précédente affaire. Monsieur Ntaganda, avocat et fondateur du parti PS Imbera Kuri, a expliqué détenir la preuve du paiement. Bernard Ntaganda a tenté de se présenter à la présidentielle de 2010, mais il a été arrêté avant le vote. Il a ensuite purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement. En vertu de la loi rwandaise, une personne condamnée à plus de 6 mois de prison ne peut exercer de fonction publique. Il s'agit de la deuxième figure de l'opposition empêchée de participer au scrutin présidentiel du 15 juillet face à Paul Kagame. En mars, une autre opposante, Victoire Ingabire, n'a pas réussi à obtenir en justice la restauration de ses droits civiques après une condamnation à une peine de prison en 2013, ce qui lui interdit de se présenter.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué aujourd'hui une loi instaurant une couverture santé universelle dans un des pays les plus inégalitaires au monde. La signature du texte restait à l'état d'élaboration pendant une douzaine d'années, intervenant 2 semaines avant les élections cruciales. La justice tunisienne a décidé aujourd'hui le maintien en détention jusqu'à leur procès de 2 chroniqueurs connus en garde à vue depuis samedi pour des déclarations et publications sur les réseaux sociaux considérées comme critiques du pouvoir, selon leur avocat et le parquet. Boren Bissaïs, présentateur à la télévision et à la radio, et Mourad Zeghidi, commentateur politique, sont poursuivis pour diffusion de fausses informations dans le but de diffamer autrui ou porter atteinte à sa réputation, selon leur avocat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les affrontements entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas et d'autres groupes palestiniens se sont intensifiés dans la nuit de mardi à mercredi à un niveau qui n'avait jamais plus été vu depuis des mois, aussi bien dans le nord que dans le sud de la bande de Gaza. Le djihad islamique qui combat aux côtés du Hamas a affirmé que ses combattants avaient tué et blessé plusieurs soldats israéliens dans la partie orientale de Jabalia, à l'origine le plus grand des 8 camps de réfugiés construits à Gaza après la guerre israélo-arabe de 1948. L'armée israélienne a confirmé avoir lancé une opération contre des groupes terroristes dans le centre de Jabalia, affirmant avoir éliminé un grand nombre d'entre eux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé aujourd'hui à Kiev une aide militaire de 2 milliards de dollars pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine face aux forces russes. Il a annoncé cette aide lors d'une conférence de presse avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Le point avec Nani Talani.
Cette aide provient des 60 milliards de dollars qui ont récemment été approuvés par le Congrès américain en faveur de l'Ukraine. Après des mois de blocage, Anthony Blinken a assuré que le but est de fournir des armes à l'Ukraine, d'investir dans ses infrastructures et l'aider à acheter du matériel militaire à d'autres pays. Le patron de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a pour sa part répété que l'Ukraine a urgemment besoin de sept systèmes de défense aérienne supplémentaires et que la région nord-est de Kharkiv, qui a subi une attaque russe la semaine dernière, a besoin de 2 systèmes. Il a également déclaré que Kiev a besoin de livraisons plus rapides d'armes promises par les pays alliés. En visite surprise de 2 jours à Kiev, Anthony Blinken a par ailleurs affirmé que Washington n'a pas encouragé ou favorisé les frappes hors d'Ukraine et que c'est à elle de décider si elle veut frapper la Russie avec les armes qu'elle reçoit et de prendre ses décisions sur la manière dont elle mène sa guerre contre la Russie. Celle-ci a mis en garde les Occidentaux contre toute attaque sur son territoire à l'aide d'armes occidentales.
Les 2 principaux candidats à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, se feront face pour leur premier débat de la campagne le 27 juin, a annoncé aujourd'hui CNN qui organisera l'événement. Le duel du président démocrate et de son prédécesseur républicain, qui se déroulera sans public selon un communiqué de la chaîne, aura lieu à Atlanta, en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Joe Biden et Donald Trump ont également annoncé, l'un sur le réseau social X et l'autre sur sa plateforme Truth Social, qu'ils débattraient une seconde fois le 10 septembre, après un premier duel donc prévu le 27 juin. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Lionel Gaïma.
Le Sénégal a mis en service mercredi à Dakar et dans sa banlieue un réseau de bus 100% électriques censé de transformer la mobilité dans la métropole congestionnée et affligée par des embouteillages. Seules 14 de 25 stations sont desservies pour l'instant. La mise en service commerciale sera progressive pour atteindre à terme 300 000 passagers par jour entre Guédiawaye et le centre de la capitale sur 18 km de voie. Fin 2021, le Sénégal a inauguré un train rapide couvrant 35 km entre le centre de Dakar et la ville nouvelle de Diamniadio. La compagnie pétrolière Shell enquête sur des informations faisant état de fumée mardi de son installation pétrolière et gazière dans l'état côtier de Bay Elsa au Nigeria suite au rapport des habitants de la communauté voisine disant avoir entendu des explosions et vu de la fumée. Selon un porte-parole, l'incident n'a pas immédiatement entraîné un arrêt des opérations. L'installation d'Egbara est de loin le plus important projet de gaz naturel liquéfié au Nigeria. Ici aux États-Unis, l'inflation a baissé en avril pour la première fois depuis janvier à 3,4% contre 3,5% en mars, indique le département du travail. La hausse des prix à la consommation a également baissé à 0,3% contre 0,4% le mois précédent, grâce notamment au prix du logement et de l'essence à la pompe.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Début aujourd'hui de la quête du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Ghana, avec le coup d'envoi des qualifications de la WAFU B qui se termineront le 28 mai.
Tous les regards sont tournés vers le match d'ouverture entre le Ghana et la Côte d'Ivoire au Legon Stadium d'Accra dans un groupe A qui inclut aussi le Bénin. Pendant ce temps, le champion en titre, le Nigeria, se prépare à une bataille féroce dans le groupe B. Tirés au sort contre le Burkina Faso, le Togo et le Niger, les Golden Eaglets devront se battre bec et ongle pour conserver leur couronne. Pour les rencontres de demain, le Burkina Faso se mesurera au Nigeria, tandis que le Togo et le Niger s'affronteront toujours dans le groupe B.
Perturbation dans le football et l'athlétisme kényan après la fermeture par le gouvernement de tous les grands stades.
Deux des matchs de qualification du Kenya pour la Coupe du Monde 2026 ont été déplacés au Malawi suite à cette fermeture. Les matchs du groupe F contre le Burundi et la Côte d'Ivoire, championnes d'Afrique en titre, auront lieu en juin au stade national Bingu de Lilongwe. Les qualifications se dérouleront désormais entre le 3 et le 10 juin. Les championnats nationaux d'athlétisme du Kenya, qui servent de test pour les championnats d'Afrique seniors d'athlétisme de juin au Cameroun, se dérouleront dans un petit stade militaire de Nairobi qui n'est pas reconnu par la Direction internationale de l'athlétisme. Le stade militaire de Lindi accueillera également le 19 mai le match de qualification pour la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans entre le Kenya et l'Éthiopie. Le ministère kényan des sports avait annoncé en avril qu'il fermerait les deux principaux stades de Nairobi et un autre dans le centre d'athlétisme d'Eldoret pour rénovation en vue de la CAN 2027 que le Kenya accueillera conjointement avec la Tanzanie et l'Ouganda.
La FIFA a communiqué les dates des trois prochaines éditions de la Coupe arabe, dont la dernière a eu lieu en 2021.
À l'occasion du 74e congrès de la FIFA ce mercredi à Bangkok, l'instance dirigeante du ballon rond a effectivement annoncé la tenue des prochaines éditions de la Coupe arabe en 2025, 2029 et 2033 au Qatar, auxquelles prendront part plusieurs équipes d'Afrique, potentiellement l'Algérie, tenante du titre, les Comores, Djibouti, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. Les participations des pays seront conditionnées à l'invitation du pays hôte et probablement à un tour préliminaire comme en 2021.
Page de sport VOA Afrique signée Nanit Talani.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les 35 victimes d'un tir d'artillerie qui a touché le camp de déplacés de Mugunga à l'ouest de la ville de Goma ont été enterrées ce mercredi 15 mai dans la grande ville de l'est. Une délégation gouvernementale venue de Kinshasa a participé aux funérailles ainsi que les populations locales qui ont appelé les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à la guerre. Notre correspondant dans la région, Zanem Netizaidi, nous en dit plus.
Aux premières heures de la matinée de ce mercredi 15 mai, des habitants de Goma se sont rendus en masse à la morgue de l'hôpital général de Goma pour assister à la levée des corps de certaines victimes des récents tirs d'artillerie dans les camps des déplacés du quartier de Mugunga. Attristés et en colère à la fois, certains ont appelé le gouvernement à prendre des mesures pour éviter d'autres décès. Rodrigue Manegabe est un habitant de Goma.
Vous voyez, parmi les morts, il y a aussi des enfants qui sont innocents. Pendant que les gens meurent ici, nos députés et autres politiciens cherchent des postes à Kinshasa, alors personne ne se soucie du peuple congolais.
Les activistes des mouvements citoyens ont saisi cette occasion pour condamner ces violences avec leur lot de victimes depuis la reprise des combats entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise. Ces activistes ont dénoncé le silence de la communauté internationale qu'ils jugent coupable. Dieu merci, Mungwa Konkwa est un activiste.
La communauté internationale, lorsqu'il s'agit d'une agression en Ukraine, vous vous levez. Mais lorsque c'est au Congo, vous vous taisez. Nous sommes pas pour. Nous disons N.O.N. Vous devez comprendre que les Congolais sont fâchés.
Pour rappel, ces funérailles ont été initialement prévues le dimanche 12 mai et ont été reportées à aujourd'hui, mercredi 15 mai. Les proches des victimes sont satisfaits de cette initiative prise par le gouvernement congolais. Mais il demande encore plus. Jean Habamungu, proche des victimes.
Ma famille a perdu 9 enfants et une des femmes de mon frère, qui fait un total de 10 personnes. Mon frère est resté seul. Ça fait trop mal. Nous ne demandons que la paix au président pour que nous vivions paisiblement.
C'est à l'esplanade du stade de l'unité de Goma où les 35 corps ont été exposés pour les derniers hommages auxquels ont pris part certains membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Après, c'est l'enterrement qui s'en est suivi à Kibati, au nord de Goma, où le nouveau cimetière y a été érigé, qui désormais sera considéré comme un mémorial des victimes de la guerre du M23. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Cameroun, la délivrance de la carte nationale d'identité pourra désormais se faire dès la fin de cette année dans un délai de 48 heures. La délégation générale à la sûreté nationale a signé à cet effet un partenariat avec une structure qui va mettre en place un nouveau système d'identification sécuritaire. Cette réforme survient dans un contexte où des millions de Camerounais sont sans cette pièce officielle. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julintap.
Je suis allée faire la carte en 2021 et depuis ça ne sort pas. Ce n'est que le récépissé.
La situation de Janine Mendogo, une résidente de Yaoundé, est loin d'être un cas isolé. Julienne Ondoa est une gouvernante de maison. Son expérience est encore complexe.
Moi, j'ai fait ma carte en 2017. C'est la première fois que j'avais fait les nouvelles cartes qui étaient sorties. Donc quand j'ai perdu dans celle-là, en 2017, depuis 2017 que j'ai fait les cartes, ça ne sort jamais.
Cette situation n'est pas sans conséquence pour les citoyens. Olive Mengot est originaire de l'une des deux régions anglophones. Durant ses déplacements, elle raconte comment le fait qu'elle soit sans carte nationale d'identité lui a porté préjudice.
Maintenant, quand je voyageais, je payais souvent 1000 francs. Quand je partais à Douala, au niveau de Bangoum, oui, je payais 1000 francs. Et à Bonaberry et Douala, avant d'entrer au sud-ouest, là encore, il me fallait donner l'argent pour que j'arrive à la destination. Et moi, j'ai fait la carte 2 fois. En 2016, j'ai fait la carte. En 2019, j'ai fait la carte. Et ça n'est jamais sorti, mais il n'y avait que les récépissés que j'avais.
Dès décembre prochain, un nouveau système d'identification sécuritaire entrera en vigueur au Cameroun. Les Camerounais pourront se faire ainsi délivrer la carte nationale d'identité sous 48 heures. Labino Karuti, directeur général de la société en charge de mettre en place ce nouveau système d'identification.
C'est un projet clé en main qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne. Il y a tout qui va changer. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais.
Des centres de production seront implantés à Douala, Garoua et Yaoundé et dans les autres chefs-lieux de région et de département. Une bonne nouvelle pour Régis Kerbaï. Ce Camerounais s'interroge néanmoins sur le bien fondé de confier les données d'identification d'un pays à une entreprise étrangère.
Et même les passeports également, ces données-là qui sont enregistrées, c'est une société, une entreprise étrangère qui fait cela. Et ce n'est pas du tout bon de savoir que les données des hommes et des femmes d'une nation soient connues, gérées par des entités étrangères. Et ce n'est pas du tout bon. Surtout avec, vous savez, nous sommes à l'aube d'une transition, qu'on le veuille ou pas, le régime en place.
Les autorités de la police ont indiqué que quelques 3 millions de Camerounais ont une double identité, voire triple identité, et ces derniers refusent de se faire valider leur identification authentique, car ayant développé d'autres avantages avec leurs multiples identités. Rien n'a filtré sous le coup de la carte nationale d'identité par pré-enrôlement. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, pour la première fois, on célèbre ce 15 mai la journée des coutumes et traditions, une journée chômée et payée dans le pays pour permettre aux adeptes des religions traditionnelles, jusque-là marginalisées selon les autorités, de se reconnecter avec leurs coutumes et leurs traditions. Une initiative du gouvernement saluée par les traditionalistes. Les historiens pensent que c'est la fin d'un cycle et l'avènement d'un nouveau monde. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici au Musée national, espace de protection et de promotion du patrimoine culturel au Burkina Faso, des habitats traditionnels de plusieurs ethnies et leur histoire pour rappeler aux visiteurs les habitudes, les comportements et le mode de vie dans le temps. De l'autre côté, cet artiste-conteur, adepte des questions de coutumes et de traditions, se prépare à livrer un spectacle. Il est soulagé quand il apprend que le gouvernement a institué une journée des coutumes et traditions. Pegdouende Gérard Kitega, d'IKPG, conteur forgeron, ambassadeur du patrimoine culturel burkinabé.
Cette commémoration permettra de nous reconnecter avec nous-mêmes, nous reconnecter avec notre histoire, nous reconnecter avec notre origine. Et en tant qu'ambassadeur du patrimoine, c'est une belle opportunité pour nous, en tout cas, de pouvoir nous exprimer. Il faut que l'Africain se reconnecte avec lui-même. Il faut que l'Africain se renoue avec ses ancêtres, avec sa spiritualité, avec ses origines.
À l'occasion de cette journée des coutumes et traditions, se tient un colloque sur la spiritualité, les traditions et les pratiques coutumières au Burkina Faso. Objectif, analyser la spiritualité, les traditions et les coutumes en lien avec la culture et les pratiques endogènes au Burkina. Pour les spécialistes, il s'agit de la fin d'une civilisation, d'un nouveau monde confronté à une fin de cycle historique. Bruno Sanou, enseignant-chercheur historien.
Quand on est à la fin d'un cycle historique, à la fin d'un monde, ben, on est engagé à la création d'un nouveau monde. Et l'Afrique ne peut pas se mettre en dehors de cela. Et pour créer le nouveau monde, il faut repartir dans le passé pour retrouver les matériaux pour construire ce nouveau monde. Je suis chrétien catholique, mais j'ai dit, il ne faut pas stigmatiser nos religions traditionnelles, bon, souvent de sataniques et ce qu'on suit, des polythéistes, non. Il faut repenser.
Le gouvernement affirme vouloir placer la culture, notamment les coutumes, au cœur des initiatives de développement. Mokhtar Sanfo, directeur général de la culture et des arts.
Les adeptes de la religion traditionnelle se trouvaient marginalisés. Ils se trouvaient donc dans une situation où ils n'étaient pas à mesure donc de promouvoir comme il le faut les coutumes et les traditions. Cela vient aussi compléter, j'allais dire, la vision donc de l'État en matière donc de laïcité qui veut que et toutes les croyances, toutes les religions soient mises au même pied d'égalité.
Désormais au Burkina, la journée des coutumes et traditions sera célébrée chaque 15 mai. Ainsi en a décidé le gouvernement. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, s'est rendu ce jour au musée national. Il a invité les Burkinabés et les amis du Burkina Faso à inscrire dans leurs habitudes la visite des sites du patrimoine afin de mieux connaître les origines, l'histoire et la culture du Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La campagne de réélection du président Joe Biden a lancé une courte vidéo ciblant les électeurs latino-américains dans l'intention de leur rappeler la politique dite zéro tolérance de l'ancien président Donald Trump en matière de séparation des familles à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un reportage d'Aline Barros, le récit est de Nathalie Barge.
En pleine campagne électorale, l'équipe de Joe Biden intensifie ses efforts pour rappeler aux électeurs la politique de l'ancienne administration Trump sur la question de l'immigration. Une publicité de 50 secondes, intitulée « Ripped Apart » ou « Déchirée » en français, montre des images d'enfants en pleurs et est suivie de commentaires de l'ancien président Donald Trump. Le président Joe Biden s'est exprimé sur la question lors d'un événement à la Maison-Blanche.
Il veut ramener les politiques cruelles et inhumaines de séparation des familles qui arrachent les enfants à leurs parents à la frontière. Les amis, ce n'est pas ce que nous sommes.
La politique de séparation des familles annoncée il y a 6 ans a conduit à la séparation de plus de 5000 enfants de leurs familles ou adultes qui les accompagnaient. Des groupes de défense des droits de l'immigration ont poursuivi l'administration Trump. Lee Gellert, directeur adjoint du projet pour les droits des immigrants de l'ACLU, est l'avocat principal dans l'affaire de séparation familiale.
L'ACLU a intenté une action en justice pour séparation de famille au début de 2018 lorsque nous avons appris que l'administration Trump s'engageait dans une pratique consistant à retirer les enfants à leurs parents.
Dans le cadre de cette politique, des familles ont été séparées et les parents poursuivis pénalement pour avoir franchi illégalement la frontière. Lee Gellert.
Nous avons intenté ce procès devant le tribunal fédéral de San Diego, un recours collectif national, et avons finalement obtenu une injonction du tribunal affirmant que la politique était probablement inconstitutionnelle, brutale et inadmissible, que l'administration Trump devait mettre fin à cette pratique, réunir tous les enfants et nous aider à retrouver leur famille.
Le procès a été réglé en 2023. Les enfants et les proches séparés recevront une aide pour les soins de santé, le logement et les besoins juridiques. Ils auront également accès à une procédure d'asile rapide et pourront bénéficier de 3 ans de libération conditionnelle humanitaire, leur permettant de vivre légalement aux États-Unis. Près de 1000 enfants n'ont pas encore retrouvé leurs proches, rappelle Gellert.
Nous recherchons les familles séparées depuis des années, mais nombre d'entre elles n'ont pas été trouvées.
En 2018, Trump a signé un décret annulant la politique de séparation des familles après un tollé au plan national et international. Il est toutefois resté ferme sur la sécurité des frontières.
Parce que nous voulons que les gens entrent, mais ils doivent entrer légalement.
L'administration Biden a annulé la politique d'immigration de Trump, suscitant les critiques des législateurs républicains. Par ailleurs, Lee Gellert souligne une décision prise en décembre par la justice, ordonnant que pendant 8 ans, aucune administration ne pourra se livrer à une pratique de séparation familiale. Les autorités frontalières américaines peuvent toujours séparer un enfant de ses parents s'il existe des preuves que l'enfant est en danger. La séparation doit être documentée et les avocats spécialisés en droit de l'immigration doivent être informés.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.